France Inter.
Aujourd'hui, que savons-nous de la douleur des poissons ? Raconté par
Amandine Sambicens, cofondatrice de l'association PAS,
et Sébastien Moreau, vulgarisateur scientifique spécialisé en cognition animale.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
En novembre dernier, à Paris, la mairie du 19e arrondissement décidait d'interdire la tenue sur son territoire de l'étape parisienne du Junior Fishing Tour, une épreuve de pêche du championnat de France des jeunes qui devait se dérouler donc le 15 novembre sur les canaux parisiens. Motif invoqué, respect de la condition animale. Immédiatement, deux camps se sont affrontés. D'un côté, ceux qui crient à la dérive idéologique et à la culpabilisation des traditions populaires. De l'autre, ceux qui demandent une chose simple. Peut-on encore apprendre à des enfants à blesser des animaux pour se divertir. Le débat ne se joue plus seulement sur les berges, il plonge aussi dans les laboratoires, car la question est brutale, les poissons souffrent-ils ? Longtemps, on s'est arrangé avec le silence des profondeurs, pas de cris, pas de plaintes audibles, donc pas de douleur. Une hypothèse confortable, mais depuis, les travaux accumulés depuis 20 ans fissurent cette certitude. En étudiant les systèmes nerveux, en observant les comportements d'évitement, en mesurant les effets des antalgiques, les chercheurs en ont conclu que les poissons n'étaient plus ces automates biologique qu'on imaginait. Et si la pêche no-kill, présentée comme un compromis éthique, n'était qu'un habillage rassurant, 30 secondes hors de l'eau, ce n'est rien pour certains. Lorsque d'autres parlent d'une asphyxie infligée pour le plaisir, les poissons ressentent-ils donc la douleur ? C'est cette question que nous allons poser à nos invités. Bonjour Amandine Sambicens et Sébastien Moreau.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Que vous inspire cette décision de la mairie du 19e d'interdire donc le 15 novembre ce concours de pêche pour les enfants, Amandine Sambicens?
C'est une avancée. Je félicite le maire du 19e, François Dagneau, qui a pris cette décision courageuse avec le soutien de la mairie de Paris. Je rappelle quand même qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui en 2026 d'apprendre aux enfants à blesser des animaux pour s'amuser. On parle d'un divertissement. Et en plus, à Paris, il est interdit de manger les poissons pêchés pour des raisons sanitaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous, on demande l'interdiction de la pêche à Paris pour des raisons de souffrance animale. Il y en a assez de considérer les poissons comme des objets de divertissement.
Sébastien Moreau, pour vous, cette décision, qu'est-ce qu'elle raconte ?
Je pense qu'elle raconte une évolution des pratiques qui, souvent, les pratiques mettent longtemps à suivre les résultats scientifiques. Vraiment très longtemps, fréquemment. Et là, justement, on est en train d'avoir des évolutions. Donc, d'un point de vue personnel, moi, ça me semble être une assez bonne nouvelle aussi.
Donc, la mairie a considéré que d'un point de vue éducatif, la manipulation des animaux, dans ce cas-là, violente et traumatisante à des fins de loisirs, n'est pas un projet à encourager chez les jeunes. Et votre association, Amandine Sambicens, réclame donc une mesure encore plus large, appelant la ville de Paris à interdire totalement la pêche de loisirs sans condition ni dérogation.
Tout à fait, c'est ce qu'on demande, y compris là dans le cadre des élections municipales. On le demande à tous les candidates et candidats à la ville de Paris. Encore une fois, c'est simple, on n'a pas le droit de consommer les poissons pêchés à Paris. Pourquoi on les blesserait ? Je rappelle quand même ce qu'est la pêche de loisir. La pêche de loisir, ça consiste à piéger des animaux, puisque je rappelle quand même qu'au bout de l'hameçon, il y a des appâts, donc ils sont piégés, on leur tend un piège, à les blesser, puisque l'hameçon crée des lésions profondes, à les extraire brutalement de leur milieu, à les manipuler, ce qui abîme le mucus protecteur, ils s'asphyxient, il y a un stress intense. Et ensuite, à Paris, soit on peut les tuer, c'est tout à fait légal, ou soit on peut les relâcher. Mais dans tous les cas, c'est vraiment une relation aux animaux qui est basée sur le fait que les poissons sont des jouets. Et nous, on veut sortir de cette vision-là en disant que Paris ne pourra jamais être exemplaire en matière de conditions animales tant que la pêche restera autorisée.
Donc la capitale est devenue un symbole pour vous ?
Oui, notamment. On est dans un pays qui est très centralisé, donc je pense que c'est important que la ville de Paris prenne des décisions fortes sur la condition animale. Elle a pu en prendre dans le passé sur d'autres sujets, et sur les poissons, il y a quand même un gros retard, puisque Anne Hidalgo n'a jamais souhaité interdire la pêche, et je le déplore. Et aujourd'hui, j'appelle vraiment tous les candidats à prendre des positions là-dessus.
C'est un enjeu des élections, Sébastien Moreau, la pêche, aujourd'hui, selon vous ? Est-ce que c'est un sujet mobilisateur pour la population ?
Est-ce que c'est un sujet mobilisateur ? J'avoue que j'en ai J'aurais du mal à répondre à cette question parce que je suis moins impliqué.
Il faut que ça le devienne. Nous, on avait fait une étude IFOP qui montrait quand même que plus de 63% de la population parisienne est favorable à l'interdiction de la pêche. Donc quand on demande aux gens, si on faisait un référendum demain, l'histoire, elle serait finie. Donc il y a un blocage au niveau des élus, ça veut dire qu'il y a un décalage avec l'opinion publique.
On va parler de la science, évidemment, dans quelques instants, parce que, évidemment, là aussi, les études ont quand même évolué. On en sait plus sur ce que peuvent ressentir les poissons, ce qui peut peut-être aussi vous aider dans votre démarche avec votre association. En tout cas, cette polémique autour de cette pêche, qu'on appelle la pêche no-kill, hein, c'est ça ? Parce qu'il n'y a pas de mise à mort.
Alors, c'est appelé comme ça par les pêcheurs. Nous, on ne l'appelle pas comme ça, parce qu'encore une fois, je tiens à souligner que quand on pêche un poisson, quand il est blessé, il y a énormément de chances pour qu'il meure après, soit d'infection, il n'arrive plus à se nourrir. Donc, c'est un abus de langage de dire ça, mais ça veut dire que certains les relâchent. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent ne pas les relâcher.
En tout cas, cette polémique, effectivement, n'a pas lieu que dans la capitale. Exemple, dans la Loire, avec un reportage d'ici Saint-Étienne-Loire. C'était en février, il y a tout juste un an.
Les truites lâchées dans cet étang, tout comme dans les plans d'eau d'une dizaine de communes de la Loire, font l'objet d'une polémique entre la Fédération de la pêche et une association de défense du bien-être animal.
Cette attaque nous semble peu fondée parce qu'il a été démontré par de nombreux biologistes scientifiques dans le monde entier que les poissons n'ont pas du tout le même système nerveux comme les êtres humains, et que l'on ne peut pas du tout comparer une souffrance du poisson à celle des humains.
Bref, les parties sont irréconciliables sur le sujet, et pour l'instant, les communes sommées d'interdire n'ont pas répondu aux exigences de l'association.
Voilà, c'était Roland Cabanne, le président de la Fédération de pêche de la Loire. Vous arrivez à discuter avec les pêcheurs, Amandine Sanvicens, ou c'est franchement très compliqué aujourd'hui d'entamer un dialogue ?
C'est assez compliqué. Après, on a eu des échanges avec la FNPF, la Fédération Nationale de Pêche en France. Mais je voudrais dire que je suis quand même atterrée qu'il y ait encore un déni de la part de certains pêcheurs sur la souffrance des poissons. C'est quand même d'en être encore là aujourd'hui, de nier le fait qu'ils souffrent. Tout ça pour légitimer leur loisir. Je trouve ça quand même assez étonnant et pour ne pas dire déplorable.
Mais qu'est-ce que vous demandez en fait à terme ?
Alors nous ce qu'on demande...
C'est qu'on interdise complètement la pêche de loisirs ?
Non, nous ce qu'on demande au gouvernement et aux parlementaires, c'est une réforme de la pêche de loisirs au regard de la souffrance animale. Aujourd'hui, dans les textes de loi en France, il y a aucune mesure, aucune réglementation qui vise à limiter, à encadrer, on va dire, la souffrance des poissons. Et donc, on demande une série de réformes, notamment par exemple l'interdiction de la pêche au vif, qui est une pratique qui consiste à utiliser un poisson vivant comme appât.
On en reparlera, oui.
Voilà, aussi l'empoisonnement dans le but de pêcher, comme là, ça a été dit à Saint-Étienne. Donc, c'est des réformes pour limiter au maximum la souffrance des poissons.
Oui, mais vous savez aussi qu'il y a beaucoup de Français qui adorent la pêche. Hein. C'est un moment aussi de partage entre les générations. On voit de plus en plus de jeunes gens, justement, hein, qui pêchent au bord des fleuves et des rivières. Donc ça veut dire que vous n'allez pas interdire ça quand même du jour au lendemain. Il faut aussi discuter, parce que culturellement aussi en France, c'est très présent la pêche.
Alors ça, je suis tout à fait d'accord que on le sait tous les jours que c'est très présent en France. Nous, ce qu'on demande, c'est au gouvernement de prendre en considération tous les points de vue. Aujourd'hui, il y a uniquement la FNPF qui est prise au sérieux par le gouvernement. Tous les projets de réforme qu'on propose sont balayés d'un revers de la main. Il n'y a rien qui passe. Il y a un blocage, il y a un mépris sur la souffrance des poissons. Et ça qui est inacceptable.
C'est-à-dire que la souffrance des poissons, aujourd'hui, c'est pas sérieux presque, quasiment ?
Pour le gouvernement, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas pris au sérieux, clairement. Puisque, en fait, nous, on demande des mesures vraiment très, très simples, comme l'interdiction de la pêche au vif ou d'autres mesures. Et en fait, il n'y a aucun dialogue, aucune ouverture pour aller dans ce sens. Et on le déplore.
Sébastien Moreau, en 2018, on vous avait reçu d'ailleurs à l'époque, c'était La tête au carré, pour une bande dessinée intitulée Les paupières des poissons. C'était avec les dessins de Fanny Vaucher, qui abordait, entre autres, la question de la douleur. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on l'a dit, on affirmait que les poissons ne pouvaient pas souffrir. À vous qui êtes vulgarisateur scientifique et qui lisez les publications, quel est l'état de la science aujourd'hui, ces 20 dernières années ? Parce que les choses semblent avoir quand même pas mal bougé sur ce terrain-là.
Tout à fait. C'est intéressant justement d'employer ce terme de 20 dernières années parce que c'est vraiment les 20 dernières années. Une première chose à prendre en compte quand on parle de ça, c'est que quand on parle des poissons, on parle d'entre eux, selon les sources, 33 à 36 000 espèces. Ce qui veut dire que dire les poissons, et ensuite finir la phrase, ça n'aura en général pas de sens. Parce qu'on a affaire à des animaux qui vivent dans des environnements extrêmement différents. Après, si on parle de la douleur, justement, pendant très longtemps, jusqu'à, on va dire, à peu près 2003, on considérait que les poissons ne pouvaient pas ressentir la douleur. Et honnêtement, ça se défendait à l'époque. Pourquoi ?
C'était quoi, oui, les arguments ?
En fait, un des arguments phares qui sert toujours un peu, on va dire, au mouvement sceptique qui reste, c'est de dire que les poissons ne peuvent pas avoir, enfin, n'ont pas la partie du cerveau chez les mammifères qui traite l'information consciente de la douleur, je vais y revenir, et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas ressentir l'émotion de la douleur. Mmh. Or, aujourd'hui, on sait que ce n'est plus le cas. Et c'est là où c'est intéressant, justement, parce que si on prend la définition de la douleur, qui est celle de, alors en français, Association internationale pour l'étude de la douleur, qui est l'organisme de référence, et ils ont remis à jour leur définition en 2020. La définition, c'est « la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle associée à une lésion tissulaire, réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes ». Bon, peu importe, ce qui nous intéresse, c'est sensoriel ou émotionnel. Et en fait, tout le jeu se situe là. C'est-à-dire que sensoriel, ça peut se limiter à être la détection. C'est-à-dire que par exemple, quand on dit « Ah oui, mais il suffit de regarder, on touche un poisson, il fuit, donc c'est probablement qu'il a mal si on le blesse. » Mais en fait, ça peut être un réflexe. Et un réflexe, ça peut se limiter à être une sensation. Mmh. C'est-à-dire qu'on va avoir des terminaisons nerveuses qui vont détecter quelque chose de potentiellement dommageable. Et on peut réagir, par exemple, quand vous mettez la main sur une plaque brûlante, vous la retirez instantanément, vous n'avez pas eu mal, vous n'avez pas décidé d'enlever votre main. Et en général, les détracteurs ont dit, bah voilà, c'est comme ça que les poissons réagissent. Et il y a la deuxième partie qui est la partie émotionnelle. Et la partie émotionnelle, normalement, elle va modifier les décisions que vont prendre les animaux, elles vont modifier leur apprentissage.
Mais parce que c'est quoi les émotions chez un poisson ?
Alors, des émotions chez le poisson... En l'occurrence, on n'en a pas tant que ça qui ont été étudiés. On a pas mal de relations sociales qui ont été étudiées, de relations a priori d'affection entre deux individus. Mmh. Mais c'est vrai que paradoxalement, au niveau des émotions, c'est la douleur qui a été la plus étudiée. Mais, et il y a un gros mais, principalement chez une toute petite quantité de poissons. C'est-à-dire principalement chez les truites. Donc c'est intéressant tout
la
à l'heure que ça parlait des truites.
Hein, et les truites arc-en-ciel. Qui étaient évoquées dans le reportage.
Hein. Et les poissons zèbres qui sont vraiment le poisson de laboratoire.
Ouais.
Et c'est marrant parce que justement, la plupart des travaux ont été faits sur les truites. Et aujourd'hui, des travaux, on en a vraiment beaucoup. Et il reste, on va dire, on a un consensus quasiment total. C'est-à-dire, par exemple, en 2009, on a l'Agence européenne de sécurité alimentaire qui a demandé un rapport à plusieurs scientifiques qui ont conclu à la sentience des poissons. C'est-à-dire, ils sont capables de ressentir subjectivement, donc la composante émotionnelle, la douleur. Ensuite, on a eu une méta-analyse de 2023 sur 470 publications qui a conclu à la même chose. Et encore plus récemment, on a la FELASA, qui est la Fédération des associations scientifiques qui étudie les animaux de laboratoire. Ou encore pareil, on a un scientifique de l'INRA qui a travaillé dessus, on a différentes personnes qui ont aussi conclu au fait que on est arrivé à un seuil où le plus raisonnable maintenant, c'est de considérer que oui, les poissons ressentent la douleur.
Donc il y a un consensus scientifique là-dessus ?
Assez clair. En fait, il existe.
Parce que moi, je me souviens d'une scientifique qu'on interrogeait il y a 10-15 ans, qui rigolait quand on leur parlait de la douleur des poissons.
Parce qu'on avait très peu de données à cette époque-là. Aujourd'hui, en fait, il reste une équipe, et c'est littéralement celle que citait la personne qu'on a eue dans l'interview tout à l'heure. Je peux vous citer les noms, je les connais par cœur, c'est James Ross, c'est Stevens, c'est Erlinghaus. C'est toujours la même équipe, en fait. Il y a une petite équipe qui, en fait, c'est intéressant parce que eux font immédiatement le rapport avec le fonctionnement humain. Donc en disant, chez les humains, il y a telle partie du cerveau qu'on n'a pas chez les poissons, donc ça n'existe pas. Mais en fait, comme il l'a très justement dit, le cerveau des poissons est constitué différemment. Et aujourd'hui, on a trouvé les zones qui sont fonctionnellement, qui font la même chose en fait que la partie du cerveau des mammifères qui traite la douleur. On a trouvé les zones ascendantes, c'est-à-dire ce qui va des terminaisons nerveuses au cerveau. On a vu que le comportement pouvait se modifier sur du long terme, c'est-à-dire qu'un poisson peut décider, par exemple, d'accepter d'avoir mal si jamais il a très faim et que ça lui permet d'avoir à manger. Donc, il y a pas mal de travaux qui ont été mis, mais effectivement, on va avoir des différences pour une bonne raison, c'est que les poissons vivent dans l'eau et les raisons d'avoir mal ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'un poisson se blesse rarement le genou en tombant.
A-t-il un genou d'abord le poisson ?
A-t-il un genou ? Non, le poisson n'a pas de genou. Mais par conséquent, voilà, c'est des choses où, par exemple, eux ont beaucoup moins de raisons d'avoir des chocs thermiques, parce que dans l'eau, ça va être beaucoup plus fluide.
Mais sur le plan biologique, est-ce qu'on peut dire que le système nerveux des poissons ressemble à celui des mammifères lorsqu'il s'agit de douleur, par exemple ? Parce que là, vous parliez du cerveau, mais sur le système nerveux lui-même...
Alors, il y a des similitudes et il y a eu des différences qui ont été les raisons de beaucoup de débats qui, aujourd'hui, on a réussi à trouver les équivalents. Donc oui, on a trouvé les terminaisons nerveuses, ce qu'on appelle les nocicepteurs, qui vont, par exemple, on sait que les nocicepteurs des poissons vont réagir différemment si on les touche ou si on les pique avec une épingle. Donc ça nous donne déjà une indication qu'il y a des seuils et ça ne va pas déclencher les mêmes zones du cerveau. Donc ça donne déjà des indications vis-à-vis de ça. Et on sait, par exemple, que les truites réagissent beaucoup plus vite que les mammifères à la douleur, donc probablement qu'elles sont plus sensibles sur certaines des zones, notamment là où elles ont les nocicepteurs. hauteur, à la bouche, au niveau des yeux, au niveau des branchies, au niveau des nageoires.
On y reviendra sur ces travaux scientifiques avec vous. Amandine Saint-Vicens, elle existe depuis combien de temps, votre association ?
2017.
Ça vous aide beaucoup que la science avance aussi sur ce terrain-là, parce que ça vous permet aussi d'avoir une bonne assise pour argumenter aujourd'hui ?
Complètement, puisque de toute façon, nous, nos campagnes sont basées sur le fait qu'il y ait des études qui montrent que les animaux souffrent. Je veux dire, si on avait la certitude que les poissons ne souffraient pas, on ne ferait pas de campagne là-dessus, puisque nous, notre objectif, c'est de faire reculer la souffrance animale. Donc, évidemment que les études nous aident. Juste pour compléter ce que disait Sébastien, en fait, dire que les poissons ne souffrent pas, c'est la même chose que de dire les humains ne savent pas nager parce qu'on n'a pas de nageoire. Voilà. Donc, c'est aussi ridicule, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas exactement la même anatomie qu'ils ne souffrent pas. Aujourd'hui, il y a un consensus. La petite équipe de chercheurs qui veut semer le doute, elle est financée par des pêcheries. Donc, pour moi, il n'y a aucune crédibilité. Et donc, il est temps de faire évoluer la loi par rapport à ça.
C'est une question qui fait débat. Et sûrement aussi chez les auditeurs de La Terre au Carré. Donc, on va en parler et on verra ça certainement aussi dans les témoignages. Donc, écrivez-nous pour nous dire ce que vous pensez de cette question de la souffrance des poissons. Et puis, vos questions toujours à nos invités.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au Carré.
Pour pêcher au vif, le pêcheur attrape un poisson vivant et lui transperce la bouche avec l'hameçon. Le poisson se retrouve suspendu à la canne à pêche et est ensuite jeté à l'eau. Ses efforts pour survivre et se dégager finiront par attirer un carnassier et il n'aura alors aucune possibilité de fuir. Les poissons sont des êtres sensibles, ils ressentent la souffrance.
Alain Bougrain-Dubourg en 2022 sur le calvaire des poissons vendu par Decathlon à l'époque pour la pêche au vif. L'enseigne a depuis stoppé cette pratique, Amandine Saint-Vicens, non ?
Non, malheureusement non. Il y a certains magasins Decathlon
Il y a des magasins qui l'ont stoppé.
Certains qui ont arrêté grâce à notre campagne. Ça fait quand même depuis 2019 qu'on demande à Decathlon d'arrêter de vendre des poissons vivants et des crabes vivants, je le précise, notamment sur la Méditerranée, qui sont vendus vivants donc pour la pêche au vif. Aujourd'hui, je tiens à dire qu'on a déposé une cinquantaine de plaintes visant 50 magasins Decathlon à l'été 2025, parce que non seulement Decathlon alimente la souffrance animale, mais en plus nous avons découvert que Decathlon enfreint la loi, puisqu'en fait les poissons qui sont vendus sont des poissons non domestiques et qu'ils doivent avoir des autorisations préfectorales, notamment un certificat de capacité, et qu'ils ne l'ont pas. Donc là, on appelle vraiment l'État à réagir. Pourquoi depuis des années et des années, on a une enseigne nationale qui vend des animaux vivants destinés à être torturés pour la pêche de loisirs sans les autorisations. Enfin, il y a un laisser-faire de l'État qui est inacceptable et donc on a saisi la justice.
Qu'est-ce qui se passe dans les enseignes qui, elles, prennent la décision justement d'arrêter cette pratique alors ?
Donc c'est chaque magasin qui peut le décider, hein, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de décision du siège. On appelle vraiment le conseil d'administration Decathlon à prendre une décision nationale. Et donc, en effet, il y en a qui arrêtent d'en vendre, mais il y en a encore qui continuent aujourd'hui. Et il faut que ça cesse parce que c'est vraiment alimenté de la cruauté. Pourquoi Decathlon ? Je veux dire, quand on passe à Decathlon, on pense aux chaussures, aux tentes. Pourquoi ils alimentent la souffrance animale à ce point.
Donc vous parlez bien de réforme plutôt que d'interdiction immédiate, hein, c'est la nuance que vous apportez
tout
à l'heure.
Oui, on parle d'une réforme de la pêche de loisirs, notamment en interdisant la pêche au vif, qui est une technique de pêche particulièrement barbare, qui est d'ailleurs interdite dans plusieurs pays européens. Et il faut que la France suive. Il y a une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Il y a des dizaines de questions écrites qui visent à interpeller la ministre de l'écologie. Et on a pour le moment une inaction du gouvernement qui est inacceptable.
Sébastien Moreau, sur les protocoles justement pour étudier, comment on fait pour étudier la douleur chez les poissons et pour que, évidemment, ces expérimentations restent le plus éthique possible.
Alors, sur les premiers travaux, les tout premiers travaux, ils avaient déjà recouvert pas mal de choses. C'est-à-dire que la première vraie étude qu'a fait, on va dire, un grand coup de tonnerre, elle est sortie en 2023, qui était l'œuvre de Michael Mandel, qui est justement... J'espère que je ne dis pas de bêtises, c'est Mandel. Bon, en tout cas, c'est Braithwaite, Sneddon et je ne sais plus qui.
Vous inquiétez pas, c'est pas très grave.
C'est pas très grave.
Pardon pour eux, mais c'est pas très grave pour le grand public.
Et en fait, dans cette étude, la première chose qu'ils ont vérifié, c'est la présence des terminaisons nerveuses. Est-ce qu'elles détectaient le contact, la douleur, la température, etc., etc. Et d'ailleurs, dans les découvertes intéressantes, je disais tout à l'heure, par exemple, les poissons n'ont pas forcément des chocs thermiques comme nous on peut avoir à l'extérieur, où d'un coup il fait chaud, d'un coup il fait froid. On s'est rendu compte que les truites peuvent être très sensibles au chaud et elles sont très peu sensibles au froid. Il y a plein de choses comme ça, donc ça va varier d'une espèce à l'autre. Le poisson zèbre, au contraire, ça va être assez différent.
Alors comment on fait pour tester ça ?
Et donc comment on fait ? Donc pour les terminaisons nerveuses, bah, c'est assez crado. Hein. Je laisse facilement imaginer qu'ils ont anesthésié les poissons, ils ont mis directement des électrodes dessus. Mais il y a aussi des études avec des volontés de voir si ça modifie leur comportement à long terme. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est un réflexe, c'est quelque chose qui devrait être instantané et s'arrêter. Si la douleur, entre guillemets, persiste, on devrait avoir des comportements modifiés à long terme. Donc par exemple, on en a un qui a été fait avec des truites, où les truites sont des poissons qui sont néophobes. Donc ils ont peur de la nouveauté. Donc dans leur aquarium, ils ont mis un petit Lego. Et donc les truites évitaient les Lego. Et là, ils leur injectent un acide. Dans celle-là, ça devait être dans les lèvres, probablement, dans cette étude. Et à ce moment-là, on se rend compte que les truites ne prennent plus du tout en compte le Lego. Comme si leur attention était occupée par autre chose. Et au moment où on met de l'anesthésiant, ce comportement de néophobie réapparaît. Et on a pas mal de choses comme ça.
Donc ça veut dire que là, en l'occurrence, c'est bien la douleur qui accapare le poisson plutôt que cet objet qui, au départ, suscitait une réaction chez lui.
Est-ce que c'était la douleur ? En tout cas, il y a quelque chose qui occupait suffisamment l'attention de l'animal. On a après d'autres travaux un peu du même type, par exemple, où on a montré, c'est dans cette première étude de Sneddon, où à partir du moment où les poissons étaient blessés, ils se frottaient la bouche quand on leur avait injecté du venin dans la bouche, où ils arrêtaient leur comportement alimentaire. On a montré avec des poissons rouges aussi que si on les met dans un aquarium et qu'on sépare l'aquarium en trois parties, artificiellement, c'est-à-dire que c'est dans la tête des chercheurs, réellement l'aquarium n'est pas séparé. Le poisson rouge est à gauche de l'aquarium, il y a à manger à droite de l'aquarium, et quand le poisson rouge commence à se diriger vers la nourriture, avec une petite électrode, on lui met un choc électrique, et plus il s'approche, plus il prend un choc électrique. Le poisson, forcément, au premier choc électrique, il se remet dans sa partie de l'aquarium. En théorie, si c'est un réflexe, il devrait toujours faire ça. Il ne devrait jamais changer de comportement. Mais en fait, ils ne vont pas l'alimenter. Donc pendant un jour, le poisson va rester dans sa partie. Deux jours, au bout du troisième jour, le poisson est affamé. Il commence à accepter de rentrer dans la zone et recevoir les chocs électriques. Et ça, c'est un des indices de la douleur, c'est-à-dire être capable de prendre contrôle sur sa douleur et dire « Ok, j'accepte d'avoir mal pour aller chercher une ressource. »
C'est pas super comme expérimentation, donc, quand même, ce que vous nous décrivez.
C'est très compliqué d'étudier la douleur sans faire mal.
mais oui, paradoxalement.
Mais ouais, ça pose des questions.
Amandine Sanvicens, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Parce que là, c'est vrai qu'on est dans des méthodes, des pratiques qui sont à la limite de l'éthique, quand même, animale.
Oui, pour moi, c'est pas éthique. Mais je déplore qu'il faille faire des centaines, des milliers d'études pour arriver enfin à comprendre que les poissons souffrent. Enfin, je veux dire, je voudrais quand même donner un élément. Si les hameçons ont été créés, c'est bien parce que les poissons sont insaisissables et qu'ils veulent pas être sortis de l'eau. S'il y a toutes des techniques de pêche qui ont été en termes d'innovation, donc les hameçons triples, les hameçons hardillons, tout ça, ça a été conçu parce que les poissons ne se laissent pas faire. N'importe qui voit un poisson au bout d'un hameçon voit qu'il se débat, qu'il essaye de tout faire pour essayer de retourner à l'eau, en fait.
Sébastien Amoreau, oui.
C'est intéressant parce qu'on a justement des travaux qui ont été faits sur les carpes, sur le fait qu'elles se fassent hameçonner. Est-ce que les carpes vont se faire reprendre, pas reprendre ? Et on se rend compte qu'en fait, les carpes, quand elles se sont fait prendre une fois, la plupart des carpes, ça va être très dur de reprendre une deuxième fois. Et même l'apprentissage social, c'est-à-dire en voir une autre se faire attraper, peut diminuer la facilité de les attraper. Mais surtout, une première carpe qui s'est fait attraper, ça va être très, très dur. Elle va faire très attention par la suite que ça ne se reproduise pas. Et après, effectivement, on entend de temps en temps le commentaire « Ah bah moi, il y a un poisson, je l'ai pris 3 ou 4 fois. » Bah oui, mais si c'est un poisson qui vit dans un environnement où il n'a pas beaucoup d'alimentation et que son choix, c'est tenter le coup quand même, bah il tentera le coup quand même, même s'il sait qu'il y a un gros risque.
Il y en a pas, il faut quand même le dire.
Ça sert encore de faire ces expérimentations-là aujourd'hui, où finalement, la littérature, elle est plutôt assez claire, ou est-ce qu'on a besoin encore d'avoir des protocoles pour aller encore plus loin sur cette question ?
Aujourd'hui, ça a pas mal bifurqué, c'est-à-dire que ces protocoles un peu fondamentaux, ils ont vraiment eu lieu, on va dire, de 2003 à début des années 2020, même un peu avant. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus de protocoles comme ça, c'est-à-dire que c'est tellement accepté que, par exemple, en sciences biomédicales, le poisson zèbre est considéré comme un des modèles d'étude de la douleur. Donc c'est dire à quel point le truc est ok, quoi. C'est à quel point ça a été validé. Et aujourd'hui, par exemple, en aquaculture, parce que moi j'ai pas mal bossé sur ces questions-là, en aquaculture, la plupart des travaux, c'est vraiment des travaux sur le bien-être, comment on améliore leurs conditions. C'est en train maintenant, là, tout de suite, d'arriver aussi dans les aquariums publics. Ils sont en train de commencer à se poser des questions sur l'enrichissement. Donc on passe même d'un seuil où on n'est plus en train de se dire comment on va leur éviter des émotions négatives, mais même comment on va pouvoir leur apporter des situations positives. Et on a des travaux qui commencent à remonter aussi, qui ont montré, par exemple, en ferme aquacole de saumon en Norvège, qu'il y a des saumons qui, à cause du niveau de stress, cessent de s'alimenter, perdent en poids, arrêtent de nager et en fait, quand ils ont analysé toute leur physiologie, ils se sont aperçus que c'était un syndrome, ce qu'ils ont appelé « depression-like », donc comme de la dépression, en fait.
Ouais, sur des poissons migrateurs comme les saumons, c'est vrai que quand on se retrouve enfermé dans des conditions ultra précaires, c'est très compliqué. Amandine Sanvicens, l'empoisonnement, non pas l'empoisonnement, c'est peu connu du grand public. C'est quoi cette pratique exactement ?
Alors, l'empoisonnement dans le but de pêcher, c'est une pratique qui est massive en France, qui consiste donc pour les pêcheurs à acheter des poissons d'élevage, notamment des truites arc-en-ciel, mais aussi des brochets, d'autres poissons, et donc de les déverser dans des plans d'eau, des lacs, des rivières, pour, si je puis dire, à l'ouverture de la pêche, avoir assez de poissons à pêcher, en fait. Donc on est vraiment sur le fait qu'il faut satisfaire les pêcheurs tellement
qu'il y en a. C'est ce qui se fait dans la chasse aussi, d'ailleurs.
Exactement, comme pour la chasse, par exemple, pour les faisans. Et donc ça, c'est une pratique qui est massive, notamment avant les ouvertures, mais en fait qui se fait durant toute l'année. Et donc, par exemple, nous avons compté, par rapport aux données qui existent du gouvernement, qu'il y a environ 5 millions de truites arc-en-ciel qui sont donc élevées dans le but d'être déversées chaque année en France. Mais à cela s'ajoutent énormément d'autres espèces. Et donc, c'est vraiment une pratique de souffrance animale et on demande l'interdiction de cette pratique.
Ouais. C'est très fréquent, ça
C'est massif.
C'est massif.
Oui, c'est massif. Et d'ailleurs, on se bat aussi parce que le taux de TVA est un taux de TVA réduit, 5,5%, alors qu'on est sur un loisir. Et ça, c'est vraiment de la souffrance animale.
Sébastien Moreau, un mot aussi sur, parce qu'on parle de souffrance, mais il y a des choses intéressantes sur l'intelligence des poissons aussi, qu'ont révélé les études scientifiques, beaucoup plus intelligents qu'on ne le pensait. La cognition des poissons a été quand même très longtemps sous-estimée, là aussi,
En fait, ça vient presque de la même chose, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré petit cerveau égal rien à en attendre. Et de plus en plus, on se rend compte que c'est pas du tout le cas, et les poissons sont vraiment en train de bouleverser les sens cognitifs aujourd'hui, parce que beaucoup de choses qu'on pensait être typiquement des mammifères, des poissons arrivent à le faire. On a de l'utilisation d'outils, on a des capacités de mémorisation absolument redoutables, on a des poissons qui ont des perceptions temporelles, ils sont capables de dire... je vous prends un exemple d'une étude qui est fascinante, qui a été faite sur la star actuelle qui est le labre nettoyeur. Si on parle du test du miroir après, le labre, c'est vraiment le roi.
C'est lui qui vient nettoyer un petit peu les autres poissons.
Tout à fait. Hein? Et en fait, le labre nettoyeur, par exemple... Dans sa vie de tous les jours, effectivement, il va nettoyer des poissons. Quand il les nettoie, il leur mange des parasites et des peaux mortes. Et en même temps, ils leur font des petits massages. Et on a démontré expérimentalement qu'en fait, ça fait baisser le taux de cortisol, donc probablement le stress des autres poissons. Donc en fait, leurs clients, entre guillemets, aiment bien se faire masser. Donc une fois qu'ils ont été nettoyés, ça risque qu'ils partent et qu'ils reviennent tout de suite à la file d'attente. Et en fait, les labres sont capables de mémoriser depuis combien de temps ça fait que ce poisson précis est venu pour se dire... Non, lui, il bluffe, c'est pas possible qu'il ait des parasites. Et donc, ils vont pas le prendre, ils vont pas s'occuper de lui. Et ça a été refait expérimentalement avec des histoires d'assiettes où on leur présentait une assiette qui était disponible toutes les 5 minutes, une qui était disponible toutes les 10 minutes, une qui était disponible toutes les 15 minutes, et on leur présentait, on les croisait en fait, on croisait les timings, et les labs disaient « Ah non, celle-là, elle est pas disponible parce que ça fait moins de 10 minutes qu'elle est venue, mais celle-là, ça fait 15, donc elle est... » Et ils arrivaient à le faire, même moi, je suis pas capable de le faire, je pense.
Donc, non seulement les poissons sont intelligents, non seulement ils ressentent de la douleur, mais en plus, ils aiment les massages. Et ça, c'est quand même une information majeure.
Alors, je vais mettre un bémol. Certains poissons aiment les massages, mais on le disait, les poissons peuvent avoir un seuil de détection du contact très, très, très rapide, donc ça peut faire mal très vite, ça peut abîmer le mucus, ça peut abîmer les écailles. Donc, c'est certaines espèces.
Oui. Et c'est entre poissons.
Et c'est fait avec des nageoires.
C'est entre poissons.
Donc, mollo.
Allez, on va revenir sur cette question de la souffrance animale. On va voir ce que le droit peut faire aussi face à cette réalité scientifique. Et puis, on attend impatiemment vos messages et vos questions et vos messages vocaux sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Je m'appelle Patrick Fernandez, on est dans ma poissonnerie, la poissonnerie Bizu. C'est une poissonnerie qui est dédiée aux poissons équigémés. Le cerveau, il se situe dans l'axe de la colonne vertébrale. Tout comme nous, on a notre colonne et ça remonte là, et notre cerveau est en haut de la colonne. Et ben, le poisson, c'est exactement pareil. Donc il a une mort quasi instantanée, donc il a déjà moins de stress. Mais bon, il y a quand même une souffrance. Dire que l'IKJM, ça n'apporte pas de souffrance, il y a une souffrance, même si elle est brève.
Oui, c'est intéressant.
Voilà, un sujet du HuffPost en 2018, le poisson. IKJM, en tout cas, cette méthode présentée par ce pêcheur, Amandine Sensivens et Sébastien Moreau. Vous connaissiez ça ou pas du tout, Amandine Sensivens?
Je connaissais après ce qu'on retient, c'est qu'il dit que les poissons souffrent quand même.
Il y a quand même de la douleur, mais ça va très vite, en tout cas, sur la façon de les tuer.
Je pense que ce n'est pas du tout généralisé en France.
Sébastien Moreau.
Pareil, je connaissais, parce qu'on m'en a déjà parlé une ou deux fois, mais j'avoue que c'est... il me semble que c'est quelque chose d'assez marginal, donc c'est vrai que ce n'est pas une question que je connais en détail.
Amandine Sensivens, qu'est-ce qui explique selon vous ce décalage finalement entre l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui et la réalité politique? Vous disiez que tout est extrêmement lent, ça n'avance pas sur ce dossier encore de la douleur des poissons.
Je pense qu'il y a quand même un poids très important du lobby de la pêche de loisirs. qui déjà historiquement et depuis des dizaines d'années en fait très proche du gouvernement et depuis la loi notamment sur l'eau où ils ont des missions par exemple d'entretenir les milieux. Nous on estime qu'il y a clairement un conflit d'intérêts sur le fait qu'à la fois ils ont pour mission de développer le loisir pêche et à la fois d'entretenir les milieux alors que ça devrait être une mission de service public d'entretenir les cours d'eau.
Ça revient dans les messages, hein, je vous les transmettrai dans
c'est
un
ça.
Instant.
Et donc voilà, donc aujourd'hui il y a un décalage, il y a aussi le fait, il faut le dire, que les associations de protection animale pour le moment ne travaillent pas à fond sur la question des poissons.
Les associations, pardon,
de protection animale.
Ah ouais.
C'est vrai qu'on
c'est
en est qu'au début.
C'est un impensé encore beaucoup.
Ben ça reste quand même les oubliés de la cause animale. Hein, il faut quand même le dire. Donc c'est aujourd'hui clairement les pêcheurs sont plus entendus au niveau national que nous associations de protection animale.
Mais il y a une réglementation européenne quand même sur cette question ou pas?
Pas sur le fait de limiter la souffrance. Il
ouais.
n'y a pas de réglementation sur le fait de limiter la souffrance. Le peu de réglementation qu'il y a, ça va être sur la question des espèces. Donc par exemple on a les périodes de fermeture de la pêche pour que les poissons aient un peu le temps de se reproduire avant de les pêcher. Mais tout ça, en fait, c'est dans l'intérêt des pêcheurs. En fait, il n'y a rien qui est fait dans le fait de limiter la souffrance.
On aurait pu aborder la question du chalutage aussi.
Hein, oui.
Parce que là, il y a des captures, évidemment, massives. Et ce sont des procédés très violents aussi pour les poissons.
Ah, bien sûr, c'est extrêmement violent. Et un exemple, par exemple, sur les poissons, il n'y a pas ce qu'on va appeler, je mets des guillemets, l'étourdissement avant l'abattage. Et ce qu'on a pour les animaux sur les mammifères ou les animaux ou les oiseaux pour dans les abattoirs. Donc on voit vraiment qu'il y a un décalage et qu'il y a un retard très fort sur la souffrance des poissons.
Sébastien Moreau.
Le problème qui est soulevé là en fait, il est vraiment transversal parce que effectivement, il y a la question du chalutage, il y a la question de la pêche de loisirs. Le problème en aquaculture est identique. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a pas de règles adaptées aux poissons qui soient contraignantes sur le bien-être des poissons en élevage d'aquacole. C'est vraiment Il n'y a rien. Moi, justement, j'interviens à l'École nationale des services vétérinaires dans un DE, justement, pour parler des poissons. Et le DE doit parler de loi. Et je suis très embêté, en fait, sur cette partie-là, parce que lois de protection, on est vraiment démunis.
Pourtant, en droit européen comme en droit français, les poissons, ils ont le même statut d'être sensibles que les mammifères. Donc ça devrait pouvoir aussi aider la cause, non?
Oui, il y a la théorie et la pratique, en fait, si je puis dire. Donc, clairement, là, ce qu'on souhaite, c'est vraiment des lois très concrètes sur des pratiques pour dire qu'il y a une reconnaissance du fait que les poissons souffrent et qu'on en tire des conclusions dans le droit. Et il faut que le gouvernement, il faut que le Parlement se saisisse de cette affaire. Par exemple, sur la loi de 2021, vous voyez, qui est une loi sur la protection animale, il n'y a rien sur la question des poissons. Donc, on voit bien que c'est encore oublié, clairement, dans la politique.
Allez, on va passer aux questions parce qu'elles sont très nombreuses. Et tout le monde ne se soucie pas de la douleur des poissons. Catherine nous dit ceci dans ce message. Le niveau de bêtise atteint aujourd'hui par la défense des poissons use des droits des poissons aujourd'hui dans cette émission Mater. L'extrême droite, grâce à ce genre de discours débile, vient de gagner quelques milliers de voix. Je pense à tous les gens qui peinent à survivre et qui entendent que la priorité des prochaines élections, c'est la souffrance des poissons et que l'urgence, c'est d'interdire la pêche de loisirs. Alors, vous n'avez pas dit que la priorité des prochaines élections, c'était la souffrance des poissons. Hein. Mais quand même, qu'est-ce que vous répondez à Catherine?
Je réponds qu'en fait, quand on défend la cause animale, on est habitué à entendre en permanence que la cause animale, c'est pas la priorité. Moi, je voudrais insister sur le fait que il y a des attentes très fortes dans la population française de faire avancer la cause animale, qu'il y a un décalage qui est énorme entre les décisions des politiques et la population sur ces sujets-là, et que oui, les élections municipales, il y a des compétences en matière de conditions animales, et que nous, en tant qu'association de protection animale, mais aussi, il y a énormément de personnes qui se soucient de la souffrance animale, on veut des engagements de la part de tous les candidats et qu'il y en a assez en fait qu'il y ait cette loi du plus fort parce que le sujet il est là en fait, le sujet il est que finalement on domine, on fait souffrir les animaux juste pour nos intérêts, juste pour un loisir.
Sébastien Moreau, pour compléter.
En fait je trouve ça toujours un peu étrange comme remarque parce que si on parle de campagne, moi j'ai des positions plutôt progressistes d'une manière générale, il me semble que personne ne fait campagne sur une seule chose. C'est-à-dire que, oui, il y a plein de sujets, et on va traiter plein de sujets qui sont plus ou moins cohérents les uns avec les autres. Et c'est vrai que si on parle de justice sociale, de protection des plus faibles, etc., ça me semble assez logique d'y inclure les animaux. Et à partir du moment où on y inclut les animaux, je ne vois pas pourquoi on n'y inclurait pas les poissons. Donc,
On va écouter un message vocal reçu sur l'appli Radio France.
C'est Julien, j'habite de Marseille, et je trouvais juste que l'intervenante était peu objective, parce qu'elle écarte complètement la possibilité pour les pêcheurs d'être tout à fait conscients de ça et de prendre énormément de précautions pour les poissons. Quand je pêche un poisson de 20 kilos avec une ligne qui est faite pour pêcher des gardons qui font maximum 500 grammes, forcément, la force n'est pas la même et le poisson a beaucoup plus de possibilités de se libérer et la douleur n'est pas la même non plus. Et j'aimerais bien, en fait, que cette personne, elle en prenne conscience. Je comprends qu'elle soit inquiète vis-à-vis de douleur que peuvent ressentir les animaux. Donc, il faudrait un petit peu plus de discussion et de dialogue de la part des deux parties et peut-être un peu plus de connaissance aussi des pratiques en elles-mêmes. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.
Merci beaucoup, Julien, pour votre message pêcheur. Hein, évidemment, on l'avait compris. Amandine Saint-Vicenne, vous lui répondez ?
Oui, ben je crois qu'il y a un malentendu, c'est-à-dire que, j'ai dit qu'une partie des pêcheurs niait la souffrance des poissons et que je le déplorais. Après, nous, on a des échanges, on reçoit des mails, on a des discussions avec des pêcheurs. Je sais qu'il y en a qui essayent, comme ils le peuvent, que les poissons souffrent le moins possible. Mais nous, notre position en tant qu'association de protection animale et en tant que militante, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un cadre réglementaire. Aujourd'hui, en effet, c'est les pêcheurs finalement qui choisissent. Il y en a qui font attention, il y en a qui font pas attention, il y en a qui vont essayer de ne pas manipuler trop le poisson ou de mettre les mains dans l'eau pour ne pas abîmer le mucus protecteur, d'autres non. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un cadre.
Oui, mais sauf que vous, votre cadre réglementaire, c'est quand même l'interdiction. Quand même,
de certaines pratiques. Hein. C'est une réforme de la pêche de loisir au regard de la souffrance animale. C'est l'interdiction de la pêche au vif, c'est l'interdiction de l'empoisonnement dans le but de pêcher, des hameçons triples avec ardillon. Et aussi, ce qu'on souhaite, c'est un permis de pêche. Je rappelle qu'en France, il existe une carte de pêche. Ça veut dire que vous ou moi, si par exemple on n'a jamais pêché notre vie, on va dans un magasin, on achète une carte, on peut pêcher. Il faudrait une formation, comme c'est le cas en Suisse.
Mais ça changerait quoi la souffrance des poissons ?
Ça changerait qu'il y a une formation théorique et pratique, notamment sur la souffrance, mais aussi sur la réglementation, et que ça permet aussi d'avoir plus conscience, c'est aussi une sensibilisation, et ça permet d'être un levier, de dire que c'est pas une pratique banale, et qu'il faut avoir une formation.
Mais vous êtes d'accord, ça change rien à la question de la souffrance, quand même. On a beau avoir un permis ou une carte, le poisson, il souffre de la même manière.
Ça pourrait changer sur le fait, par exemple, de dire qu'il faut moins manipuler, les temps à l'exposition de l'air à l'extérieur, etc.
Thomas nous dit, à titre individuel, en tant que pêcheur responsable, je souhaiterais simplement rappeler que le rôle de vigie que nous avons est très important sur le bord de nos rivières. On constate bon nombre de pollutions, notamment industrielles et agricoles, et on les fait remonter aux autorités compétentes. Nos cotisations annuelles de permis de pêche permettent justement des réempoissonnements pour soutenir les effectifs piscicoles de nos rivières. Sans eux, leur richesse serait tout autre. Alors c'est vrai que cet argument écologique qui revient beaucoup, ce rôle de vigie, on en a dans beaucoup de messages, Amandine Saint-Vicenne.
Oui, on est habitué à cet argument-là.
Il est réel quand même, non ?
Je trouve que c'est assez déplorable de se dire que pour être vigie, pour regarder ce qui se passe dans les cours d'eau, il faut blesser les poissons. Je pense que c'est deux sujets qui sont différents. Je pense que c'est un sujet qui est culturel, que la situation, elle est celle-là aujourd'hui, mais qu'elle pourrait être autrement demain. Sur la question de l'argent, parce que là, il est cité le fait que l'argent des cartes de pêche permette d'empoisonner, donc vous l'avez compris, nous, on est opposés à l'empoisonnement dans le but de pêcher. Mais je voudrais quand même aussi dire qu'il y a énormément d'argent public, que ce soit à l'échelle des régions, des départements, qui financent la pêche de loisirs, notamment les empoisonnements dans le but de pêcher, qui financent des maisons de la pêche, qui financent plein de choses. On a fait une étude des documents administratifs des régions et des départements, et que je trouve inacceptable que l'argent public aille pour alimenter la souffrance animale et la souffrance des poissons.
On va écouter un nouveau message vocal reçu sur l'appli Radio France.
Bonjour Florent. Il y a la pub pour Intermarché où il y a un gentil loup qui épargne tous les animaux parce qu'il devient végétarien. Le poisson, lui, il n'est pas épargné. Alors, c'est un peu bizarre, moi ça m'a choqué tout de suite. Je me suis dit, c'est marrant. On épargne tous les animaux, mais pas le poisson qui, lui, finit dans l'assiette. Avec les yeux en croix, c'est quand même assez étonnant. Bonne journée.
Merci pour votre message. C'était aussi le sens de la réaction de l'association Bloom, hein, au moment des fêtes de fin d'année, qui avait réagi justement à cette publicité et qui avait reçu énormément de critiques, d'ailleurs, à ce sujet. Vous voulez lui répondre, Sébastien Moreau, à cet auditeur ?
J'ai eu la même surprise, pour être honnête. En regardant la publicité, je me suis dit, tiens, elle est vraiment adorable, en fait. Il y a vraiment une belle atmosphère qui en sort. Et au moment où il y a ça, moi qui travaille beaucoup sur la question des poissons, ça a vraiment créé une espèce de blocage dans ma tête en me disant, pourquoi ça vient de s'arrêter ? Pourquoi il y a une coupure dans la pub, en fait ? Et effectivement, c'est quelque chose qui est tellement répandu. ne serait-ce que, là, il y a dans la pub, par exemple, dans les jeux vidéo, combien vous avez de jeux vidéo où la pêche, c'est une activité annexe, comme si elle était vraiment anodine, dans des choses qui n'ont aucun rapport. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des jeux, je pense à un jeu où on joue dans les enfers et on se retrouve à pêcher dans les enfers, quoi.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Le débat continue, évidemment. Vous pouvez réagir sur les commentaires de l'émission. Je renvoie également à cette bande dessinée des paupières des poissons, hein, qui n'est pas toute jeune, mais qui est toujours disponible et que vous avez signé Sébastien Moreau avec Fanny Vaucher. Et puis votre association
PAD sur zoopolis.fr.
On a mis le site sur la page de la Terre au Carré. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Joël Levert qui a réalisé, qui a préparé cette émission. Jérôme Moulet qui la réalise. Lucie Srafati pour la coordination et Fabrice Desmaz à la technique.